Je vais d'abord prendre quelques préalables pour qu'on se mette tous d'accord de sur quoi on parle, mais qu'est-ce que c'est, pourquoi on parle de stratégie alors ? Il y a souvent une erreur qui est faite, c'est qu'on a tendance à vouloir avoir une stratégie en tant qu'organisation politique en étudiant le passé et en disant que si on étudie bien le passé, eh ben, on va pouvoir appliquer des bonnes recettes dans le présent parce qu'on aura tiré les bonnes leçons, ainsi de suite. Alors, il y a une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi une part de faux parce que la stratégie, c'est quand même essentiellement essayer d'anticiper ce qui va se passer. Et donc, ce qui va se passer, vu que ça ne s'est pas encore passé, eh ben, y a une part de risque dans les choix qu'on va faire. Mais c'est important, parce que sinon, et ça, souvent, il y a des courants dans le monde ouvrier qu'on nommera pas forcément, mais qui pensent avoir trouvé la bonne recette par rapport aux bonnes expériences passées et vont l'appliquer systématiquement de la même façon. Certains peuvent voir à qui je pense, mais vont avoir... au final, assez peu d'impact sur la vraie vie parce que, bah, de fait, l'histoire ne se répète pas toujours à l'identique. Et donc, essayer d'anticiper, de se positionner dans des événements qu'on pense qui vont se passer, bah, c'est là que commence la stratégie en politique. Voilà. Donc ça, c'était le premier préalable. Le second préalable, c'est que je crois qu'il faut qu'on arrive à opérer la distinction entre tactique et stratégie. Tous ces éléments-là, bon... relève du champ militaire quelque part. Hein. Voilà, c'est un vocabulaire qui a été emprunté au champ militaire. Alors au début, la tactique, c'était les différents éléments d'intervention dans une bataille, et la stratégie, c'était comment gagner la bataille ou la guerre dans son ensemble. Et le vocabulaire militaire distingue bien ces deux aspects-là. Et bien, en politique, on peut dire que c'est potentiellement un peu la même chose, hein, où la tactique, ça va être des éléments plus conjoncturels, secondaires, on va dire, et qui vont découler d'une appréciation particulière de la situation. Alors que la stratégie, dans le mouvement ouvrier, ça va correspondre à des éléments plus fondamentaux qui vont déterminer des grandes délimitations entre les différents courants politiques. Bon, typiquement, les questions électorales relèvent de la tactique, quand on veut renverser le capitalisme. Alors que la question de la réforme ou la révolution, par exemple, est-ce qu'on va arriver à changer le système par des réformes ou par la révolution, c'est des éléments plus stratégiques. On peut être révolutionnaire, ou réformiste, et on voit qu'il y a des grandes différenciations dans le mouvement ouvrier autour de cette question-là, mais on peut par contre être révolutionnaire et faire le choix tactique d'aller aux élections, de ne pas y aller, d'y aller seul ou avec d'autres. Ça ne détermine pas la compréhension qu'on a de la nécessité de faire la révolution, de renverser l'État, ainsi de suite. Voilà. Mais tout ça, c'est important parce que je crois que j'y reviendrai, mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, ces débats autour de la stratégie n'ont pas toujours eu lieu. Ça s'est construit progressivement. Bon, aux origines du mouvement ouvrier, notamment en France, quand les groupes socialistes étaient très minoritaires, il y avait l'idée que des petits groupes bien organisés, ce qu'on appelle le blanquisme, entre autres, des petits groupes bien organisés allaient pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Bon, ce truc-là, c'est modifié sur la force des choses parce que la classe ouvrière croissant numériquement, y compris on le retrouve dès Marx, hein, où Marx explique que, ben, de toute façon, vu que pour accumuler le maximum de capital, il faut le maximum de travailleurs, la loi de la valeur, hein, ce qu'expliquait Lucien hier dans son topo, donc il faut exploiter des travailleurs pour faire des profits, et donc petit à petit, les travailleurs allaient devenir majoritaires dans la société, et donc quelque part, ben, dans la logique même du système capitaliste, le verre est dans le fruit, parce que le capitalisme met comme classe sociale majoritaire dans la société les travailleurs, et quand ils vont devenir majoritaires, ben de fait, ça posera la question de la fin du capitalisme. Bon, ça, cette compréhension mécaniste-là, elle est très présente dès la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en réalité. Voilà. L'idée que, du fait qu'il y aura de plus en plus de travailleurs, ben on va faire de plus en plus de voix aux élections, on va gagner des majorités parlementaires. Donc ça, c'est toute la Seconde Internationale, c'est quand même cette conception-là. Du coup, la question stratégique ne se pose plus, parce que vu qu'on va être majoritaire, le Parti Socialiste ou le Parti Social-Démocrate va conquérir le pouvoir par la voie parlementaire et comme ça, renverser le capitalisme. Mais ça a écarté totalement les questions stratégiques. Il y a plusieurs éléments qui vont un peu rompre cette conception-là et plusieurs débats importants dans le mouvement ouvrier. Bon, un des moments fondamentaux, c'est la Commune de Paris. donc je n'ai pas beaucoup développé, mais la Commune de Paris commence à poser une série de questions, c'est-à-dire que quand notre camp social prend le pouvoir, ben, ceux d'en face, ils ne sont pas d'accord. Bon, à Paris, ça s'est fini quand même par un massacre de dizaines de milliers de communards. Donc le camp d'en face, il ne suffit pas de prendre le pouvoir politique, il faut aussi le conquérir par un affrontement avec une opposition à un État. Bon, et ça, c'est quand même tout. Bon, il faut parler un peu de bouquins à lire et tout, mais tout ce qu'a pu développer Lénine autour de la conception de l'État, on y reviendra sûrement plus tard dans le topo. Une série de débats menés par les courants anarchistes, mais surtout commencent à être systématisés par Rosa Luxembourg, qui se rend compte qu'à côté du parlementarisme, bah, y a plusieurs choses, plusieurs phénomènes sociaux qui se passent. Un, c'est l'intégration, la bureaucratisation des partis ouvriers qui voilà, s'intègrent à l'appareil d'État. On y reviendra aussi, c'est des choses qui sont très importantes à comprendre. Et en même temps, elle voit qu'à côté de l'action parlementaire, il y a des phénomènes cycliques en Russie, en Allemagne, de grèves de masse, où la question de l'action extra-parlementaire vient percuter la situation. Et même, elle se rend compte que cycliquement, les masses non organisées atteignent un niveau de conscience et de combativité supérieur à la couche bureaucratique qui constitue la direction du Parti social-démocrate allemand notamment. Et donc là, on commence à toucher du doigt des débats très intéressants. Alors, je n'ai pas le temps du tout de développer parce que ça nécessiterait de prendre trop de temps sur mon topo, mais des débats très intéressants entre les Allemands et les Russes, entre Rosa Luxembourg, Lénine, autour de la place et le rôle du parti, la place de la spontanéité, alors avec des guillemets, mais en tout cas la place de l'action spontanée des masses, et comment ces choses-là s'articulent. C'est parmi les questions les plus intéressantes, on va dire, quand on réfléchit à tout ça, mais aussi parmi les questions les plus compliquées. Donc on va essayer de donner des éléments tranquillement. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a un événement fondamental dans l'histoire du monde ouvrier, c'est la révolution russe en 1917, et que petit à petit, quand même, on se rend compte que les débats qu'il y a entre Trotsky et Lénine autour de la question du parti, les débats qu'il y a entre Rosa Luxembourg et Lénine, tout ça finit par converger sous l'expérience historique. Et donc, la théorie, on va dire, du courant révolutionnaire du début du XXe siècle, il y a eu des gros débats, mais sous l'expérience russe, il y a une convergence qui fait un peu la synthèse entre cet aspect-là, du mouvement de masse, de la spontanéité des masses, de l'action extra-parlementaire, et du rôle du parti en tant que structure et en tant qu'opérateur stratégique. Voilà. Lénine est le premier à systématiser ces discussions-là autour du parti stratège, de son rôle dans la crise. Donc il définit la crise révolutionnaire comme une crise qui se passe dans l'espace national, où ceux d'en haut, les classes dirigeantes, n'arrivent plus à diriger comme avant, ceux en bas ne veulent plus, et se joue dans les couches intermédiaires de la société un choix dans lequel le parti doit intervenir et peut être un opérateur stratégique. Alors Lénine dit parfois en quelques, alors je sais plus la formule exacte, mais en quelques minutes ou quelques heures, il peut se passer plus de choses qu'en plusieurs années, et donc le temps s'accélère et on commence à rentrer dans des questions très intéressantes où on n'est pas juste dans l'activité politique routinière, mais on essaie de saisir des moments, et on l'a tous vécu quand, parce que bon, même si l'activité sociale est parfois décevante, mais mine de rien, alors peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous, mais les gilets jaunes, la grève sur les retraites, on a eu des expériences récentes de mouvements de masse où on voit bien que parfois le temps s'accélère et le rôle des militants, de ces organisations dans les mouvements peut faire qu'il y a des bascules, peut faire qu'il y a des accélérations. Et ça, je crois que c'est là où les choses commencent à devenir très intéressantes quand on veut changer le monde. Donc, petit à petit, les choses vont se préciser. On ne peut que conseiller la lecture sur ces aspects-là de notre camarade feu Daniel Ben Saïd, mais bon, voilà, qui a essayé de systématiser un peu les choses sur les questions stratégiques. Il y a un petit bouquin qui s'appelle « Stratégie et parti », qui a été réédité et préfacé par Hugo Paletta et Julien Salingue. Alors bon, c'est intéressant ce qu'écrivent les camarades, mais ce qu'écrit Ben Saïd, à mon avis, l'est encore plus. Et je pense qu'il faut vraiment, si on est intéressé par ces questions-là, lire ce bouquin. Bon, Ben Saïd, il va parler d'hypothèses stratégiques. Alors, un peu à la lumière de l'expérience historique, il va définir deux grandes hypothèses stratégiques. Alors, attention, comme on dit mise en garde, hein, c'est des hypothèses. C'est-à-dire que c'est pas un truc mécaniste. Il définit ça comme des guides pour l'action. Voilà, d'avoir une hypothèse stratégique, ça te permet de te repérer et donc justement dans tes choix tactiques au quotidien, tu te places dans un canevas, mais de fait, les choses peuvent être plus compliquées que les grandes hypothèses. Mais les deux grandes hypothèses stratégiques au XXe siècle, d'un côté, c'est la question de la grève générale insurrectionnelle, c'est-à-dire que, j'y reviendrai, et de l'autre, la guerre populaire prolongée. Donc c'est les deux grandes hypothèses stratégiques que définit Ben Saïd. Et donc la grève générale insurrectionnelle, c'est une hypothèse stratégique qui va plutôt se nourrir des expériences comme mai 68 ou juin 36 en France, on va dire. Mais il y a d'autres exemples dans d'autres pays. Hein. Il y a eu des grèves générales très fortes en Belgique dans les années 60. Bon. Ou à un moment donné, dans un espace urbain, dans un temps très court, on a un mouvement de masse qui va bloquer la production, occuper les usines. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des dynamiques où on ne fait pas juste grève, on n'est pas juste passif dans la grève, mais on va, à travers ces mouvements-là, commencer à faire marcher la société à notre propre compte. Voilà. C'est-à-dire que ces moments qui concentrent l'énergie, une conscience maximale et qui touchent à la production et à l'organisation économique de la société sont des moments à partir duquel on peut penser qu'il peut y avoir une logique qui devient révolutionnaire. C'est-à-dire, je m'explique, nous, les grèves qu'on connaît en général, bon, on fait une AG, on fait grève, on va manifester et puis on a du mal sur le lieu de la grève, dans les boîtes, à faire en sorte que la grève devienne active. Et il y a une logique dans la grève générale à reprendre l'activité qui n'est pas juste une logique consciente, mais qui est un mécanisme. Par exemple, on voit bien en région parisienne, quand il y a une grève générale, la manifestation est très dure à organiser parce qu'il n'y a plus de transport. Bon, mais le jour où les traminots reprennent le fonctionnement du métro pour amener les travailleurs à la manifestation centrale, on voit que là, il y a un truc qui se passe où on n'est plus juste en train de bloquer l'outil de production, on est en train de se le réapproprier. Il peut y avoir ce genre de dynamique dans les hôpitaux. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, on voit bien qu'une grève générale à l'hôpital, bon, il y a des gens qui meurent, c'est compliqué, mais il peut y avoir des dynamiques où on fait la grève administrative, où on organise les soins indépendamment des chaînes de commandement et ainsi de suite, et où on commence petit à petit à se réapproprier aussi l'organisation du travail. Bon, voilà, je trouve que là-dedans, voilà, il y a des choses très intéressantes à discuter, voilà, qui donnent un cadre. Et puis l'autre cadre, qui est un cadre un peu différent, la guerre populaire prolongée, c'est plus une guerre de position, où souvent il y a un aspect territorial. Bon, on connaît un peu moins ça aujourd'hui, mais si on en parle en Asie, je pense qu'on peut voir des exemples comme ça, avec des guérillas armées qui vont conquérir des territoires. Et donc là, on est sur des temps beaucoup plus longs, bon, souvent face à des pouvoirs politiques aussi plus faibles. Voilà, parce qu'on voit bien qu'en France, si on se disait on prend les armes dans le Tarn, on aurait vite des problèmes. Mais bon, il y a des pays où l'État est plus faible, et donc il y a des possibilités de découper des territoires. Bon, et puis des fois, il y a une combinaison des deux. À Cuba, typiquement, il y a à la fois un processus de grève générale à Santiago, puis un processus de guérilla dans d'autres territoires. Donc ce n'est pas forcément des modèles qui sont excluants. Mais on va dire que dans des pays comme le nôtre, on voit bien que la question de la grève générale, elle a une place plus importante. Parce que ça arrivait plus souvent dans l'histoire, et ça correspond mieux à l'affrontement avec un pouvoir politique très fort, très centralisé, qu'il faut arriver à mettre en échec de façon rapide. Ok, on va essayer quand même de retomber sur nos pattes, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le thème. Autre élément que je voulais introduire pour ouvrir la discussion, en espérant que je ne sois pas trop long. Mais quand on discute de la stratégie, on discute du parti. Donc ça, je l'ai un peu déjà évoqué avec le parti stratège de Lénine, du parti et des classes sociales. Et on va essayer de comprendre le lien qu'il y a entre les deux. Alors en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, Marx, Engels nous disent que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte de classe. Et c'est cette compréhension que depuis que l'humanité est un peu sortie de la préhistoire et a commencé à structurer la production et à générer alors c'est pareil, la formation économique, hier on en a un peu parlé, mais à générer un surproduit, donc à générer plus de richesses que juste manger et survivre, la société s'est divisée en classes sociales et que c'est l'histoire de la lutte de ces classes sociales qui explique les grandes dynamiques et les grands changements sociaux. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que dans, et là on va commencer un peu à discuter de l'actualité, mais on voit bien que dans les évolutions dans le mouvement ouvrier, notamment en France, mais pas que, y compris dans le vocabulaire, cette dimension de lutte des classes s'estompe. On parle beaucoup du peuple, des 99%, des gens, le parti des gens, expression de François Ruffin par exemple. Et on voit bien qu'il y a une tendance à nier le fait que la lutte des classes soit le moteur. Et ça, bon, je crois que pour nous, c'est en partie un souci. Voilà. Bon, quelles sont les classes sociales ? Et donc, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, je peux donner une définition sociologique des classes sociales. Bon, alors, la bourgeoisie, ceux qui détiennent les moyens de production. Le prolétariat, ceux qui n'ont que leur force de travail pour survivre. La petite bourgeoisie, les couches intermédiaires. Bon, tout ça, c'est intéressant. Mais je crois que quand on discute du parti, il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire que les classes sociales, là, elles sont définies sociologiquement, on va dire, dans des rapports économiques. Mais là, en réalité, les classes sociales, elles existent que parce qu'elles existent de façon consciente. Ce qui fait une classe sociale, c'est la compréhension qu'on est une classe sociale. La bourgeoisie, une classe sociale qui comprend tout à fait son rôle, et qui s'organise très bien, en réalité, pour maintenir sa domination. Par contre, elle ne se nomme jamais. Elle est consciente, mais elle ne se nomme pas parce qu'elle voit bien que si on démasque le fait qu'il y a ces classes sociales qui ont des intérêts contradictoires, ça la met en difficulté. Mais donc du coup, quand on discute des classes sociales, on est obligé d'introduire les notions de classe en soi et de classe pour soi. Donc la classe en soi, c'est ce que je disais, c'est la classe sociologique. Et la classe pour soi, c'est la classe qui agit par elle-même de façon consciente. Et je trouve que l'exemple le plus simple, c'est les profs. Bon, les profs, c'est ni la bourgeoisie, ni le prolétariat. Pourquoi je dis ça ? De façon sociologique. En France, on peut assez facilement dire que les profs appartiennent au prolétariat. Mais parce qu'il y a une histoire, parce que les profs ont des syndicats, parce qu'ils participent aux luttes, ils jouent un rôle dans le mouvement ouvrier, et donc ils se conçoivent eux-mêmes comme des travailleurs qui appartiennent au mouvement ouvrier. Mais c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Il y a plein de pays où les profs, c'est une corporation réactionnaire qui est dans l'autre camp. Donc ça, et donc, je trouve qu'en prenant les cas limites comme ça, on voit bien que ce qui fait la classe sociale, c'est aussi comment des groupes sociaux vont se considérer, vont agir, quelle histoire ils ont derrière eux et comment ils vont se positionner. Alors, si on prend le cœur de l'industrie ou quoi, bon, forcément, il n'y a pas cette différenciation-là, mais on voit bien que dans la société plus complexe, il y a toute une série de couches intermédiaires qui sont déterminées par la conscience inclus dans des processus historiques. Bon, et cette conscience-là, elle se traduit comment ? Elle se traduit sous la forme de partis. Voilà. Alors, c'est pareil, il ne faut pas avoir une vision trop mécaniste, mais le parti, c'est la façon dont se structure la conscience des classes sociales, et c'est pour ça qu'il y a déjà plusieurs partis. C'est pour ça qu'il y a aussi plusieurs partis dans notre camp social, c'est-à-dire que notre camp social est hétérogène, il a différentes couches, différentes strates, des strates qui sont plus ou moins intégrées au système dominant, et donc avec des niveaux de conscience différents qui font qu'il y a des organisations différentes. Mais d'un point de vue théorique, le parti historique, comme disait Marx, c'est la classe sociale, notre classe sociale, qui prend conscience d'elle-même, qui s'organise pour conquérir le pouvoir politique et se libérer de ces chaînes. D'ailleurs, plein de fois, dans les textes de Marx, il parle du parti, alors qu'il n'y a plus de parti. Ça, c'est assez marrant. Marx et Engels, ils ont construit des partis, ils les ont dissous. La première internationale a été dissoute avant que il y a eu un laps de temps avant que la seconde soit créée. Ils continuent de parler du parti, parce qu'ils parlent du parti historique, de ce processus social qui fait que la classe sociale prend conscience d'elle-même et se structure. Et ça, je crois que c'est important. Voilà. Bon, je ne développe pas beaucoup plus, parce que sinon, je vais trop vous embrouiller. Mais je crois que quand on va discuter des élections, les élections, c'est aussi la lutte des partis. Et donc, la lutte des partis, ça fait partie de la lutte des classes, même s'il y a quelque part quelque chose qui est déformé. Il y a une médiation qui déforme les rapports sociaux, mais néanmoins, ça nous informe sur une série de choses. Et dernier préalable avant de rentrer dans la seconde partie du topo, Et je l'ai dit, pour les révolutionnaires, les élections, c'est un élément tactique. Alors, ça pose la question du parlementarisme, donc ça, je ne vais pas trop développer, mais c'est des débats qui sont vieux comme le mouvement ouvrier. C'est Zinoviev en 1919, je crois. Il envoie une lettre avant le second congrès de l'International et il dit tous ceux qui sont pour les soviets et la dictature prolétarienne doivent s'unir au plus tôt et former un parti communiste unique. Et donc il dit un parti communiste unique parce que les débats qu'il y a à ce moment-là, c'est les débats de est-ce qu'on participe ou pas au Parlement. Voilà. Et il y a des courants qui disent non, le parlementarisme, c'est la collaboration, c'est l'État bourgeois, il ne faut pas y aller. Il y a des courants qui disent, notamment les courants majoritaires bolcheviques, qui disent il faut aller dans le Parlement pour utiliser le Parlement, pour l'utiliser et pour utiliser les parlementaires comme un outil pour détruire le Parlement. Donc, parce que le Parlement bourgeois, c'est le lieu où la bourgeoisie fait croire à une forme de démocratie, mais c'est un outil d'oppression et de maintien de la domination du système. Et les élus qu'on y envoie doivent être des points d'appui. Pour casser ce truc-là. Mais il dit surtout, ne nous divisons pas sur les questions électorales. Voilà. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est que, et c'est à mon avis une des erreurs qui a été faite à la scission du NPA il y a 12 ans, quand les camarades sont partis faire ensemble, c'est qu'on a scissionné sur une question électorale. Hein. Et ça, c'est une bêtise en réalité. Hein. C'est une bêtise parce que c'est une question qui est secondaire. Or, les camarades, quand ils nous ont quittés, ils ont commencé à théoriser dans notre hypothèse stratégique, il fallait inclure la question des élections, parce que dans des pays où la démocratie bourgeoise est installée depuis 200 ans, le poids des élections est tellement fort, on le constate, c'est une réalité, c'est très fort, on est obligé d'intégrer à l'élément stratégique la prise de position institutionnelle. Bon, et pour moi, c'est une erreur. Parce que même s'il y a des éléments de vrai, c'est-à-dire qu'on fera, on bien que si la révolution monte, il va commencer à y avoir des députés, issus de nos rangs ou pas, mais qui seront des députés révolutionnaires. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, la révolution ne monte pas vraiment très fort, mais ça peut aller vite. Et donc forcément, l'action parlementaire jouera un rôle. Parce que comme elle a joué un rôle dans les années 20, dans les grands débats des premières révolutions. Et je crois qu'il y a quand même en France, y compris dans notre courant, la tendance à dire que tout ça, le parlementarisme, c'est caca, c'est mal, parce qu'on est aussi influencé par une histoire. Et je crois que là-dessus, voilà. Jamais oublier ça, ne pas se diviser sur les questions tactiques, ne pas se diviser sur les questions électorales, et considérer que l'action parlementaire peut avoir un rôle, même si elle n'est pas au centre de notre hypothèse stratégique, comme élément de subversion du Parlement. Alors, sans transition, mais quelles leçons on peut tirer de la dernière séquence électorale et comment tout cela réintroduit une série d'éléments stratégiques. Les élections présidentielles, il y a plusieurs tendances qui sont à l'œuvre. Je pense que la première, c'est la montée. Alors la montée de l'extrême droite, ça fait 30 ans que l'extrême droite monte, mais qui se poursuit, avec des scores qui sont quand même assez impressionnants, 42% au second tour, le Rassemblement national en tête chez les ouvriers et les employés, même s'il y a eu 30% d'abstention chez les ouvriers, 42% des ouvriers qui ont voté pour le Rassemblement national. Donc ça fait un ouvrier sur trois. On voit bien que le Rassemblement national n'est pas un parti ouvrier. Donc là, ça fait quand même écho à classe en soi, classe pour soi, qui a... montre que les travailleurs ne sont pas spontanément polarisés par les partis qui les représentent subjectivement. Et là, on a une vraie difficulté. On dit souvent, à juste titre, que le parti nazi en Allemagne, c'est la petite bourgeoisie qui s'organise pour écraser le mouvement ouvrier. Mais pareil, là aussi, c'est un élément de subjectivé, parce qu'en réalité, dans les troupes nazies, il y avait une bonne fraction de la classe ouvrière. Hein, ce n'était pas que des petits bourgeois. Mais même si ce n'était pas eux qui étaient à la direction. Donc là, on a une difficulté. C'est qu'il y a plus d'ouvriers qui votent pour l'extrême droite que pour la gauche. Mais il y a quand même une autre évolution. Ce qui c'est là est plus dans le schéma de l'explication classique du fascisme. C'est la montée de Zemmour. Où là, pour le coup, si on prend la composition sociale du meeting de Villepinte, on voit bien que là, c'est la petite bourgeoisie enragée qui commence à se structurer. Bon, 10, 15 000 dans un meeting autour d'un programme assez ouvertement fasciste, hein, de négation des conflits de classe, corporatiste, avec des éléments de purification autour de la question de la nation et d'identité nationale et religieuse. Bon, tout ça montre bien qu'il là, il y a un phénomène nouveau qui doit, à mon avis, nous inquiéter et qui polarise à peu près l'ensemble, enfin qui a polarisé en tout cas conjoncturellement, l'ensemble des groupes, des petits groupes, des groupuscules d'extrême droite, violents, fascistes, auxquels on peut avoir affaire dans nos différentes villes de façon régulière et de plus en plus régulière. L'autre leçon de la présidentielle, c'est en face le score de Mélenchon. Voilà. Il y a 6 mois, on ne pensait pas que Mélenchon allait reproduire encore plus fort ce qu'il avait réussi à faire il y a 5 ans, à savoir polariser l'ensemble du vote conscient de notre classe sociale. Ça, je crois qu'il faut le comprendre comme ça. C'est un vote de classe dans le sens où c'est un vote qui refuse la division de notre classe autour des questions de racisme et d'islamophobie, avec un vote massif dans les quartiers populaires. C'est un vote qui polarise l'ensemble du champ syndical du mouvement social associatif, donc la partie la plus consciente de notre classe sociale. Donc c'est un vote de classe, même si sociologiquement c'est pas exactement ça. Voilà. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Par ailleurs, il y a des problèmes dans ce vote-là. Il y a beaucoup d'illusions dans les institutions, on va y revenir, et ça fait écho à plein de débats du mouvement ouvrier. Mais il y a une base aussi qui considère que le programme de l'ANUP, c'est sûrement à tort, mais considère que le programme est plus radical que ce qu'il est vraiment. On voit bien dans pas mal de circonscriptions, les militants de l'ANUP ont l'impression que l'avenir en commun, c'est un programme transitoire. C'est un programme qui va permettre de rompre avec le capitalisme. Nous, on sait que c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est perçu comme ça, de façon dans la conscience d'une série de militants. Des lecteurs, c'est moins clair, à mon avis, mais de militants. Mais qu'est-ce que ça pourrait produire? Ça, on ne sait pas. Si ce type de gouvernement arrive au pouvoir, tu as des moments où les attentes de ce qu'il porte au pouvoir sont plus fortes que le programme réel, et il peut y avoir des processus qui accélèrent les choses. Bon, je ne sais pas si l'ANUPS, c'est le Front Populaire de 36, mais on voit bien que quand le Front Populaire arrive au pouvoir, il n'a pas du tout les congés payés, pas du tout l'augmentation des salaires, les droits syndicaux dans son programme. Mais vu qu'il exprime ça, vu que l'unité du mouvement ouvrier à ce moment-là qui accède au pouvoir exprime ça, ça favorise la grève générale de 36 qui va arracher toutes ses victoires. Donc il peut y avoir ce type de phénomène. Bon. Il peut y avoir des phénomènes inverses aussi. On pourrait y revenir. Parce que c'est des partis qui ont une base qui socialement est différente de leur direction également. Bon. Le noyau de direction autour de Mélenchon, c'est un noyau extrêmement intégré à l'appareil d'État. Bon, pour ceux qui ont eu la chance de les côtoyer de près dans la dernière période, c'est un noyau très intégré à l'appareil d'État. Ça, il faut le comprendre. Par contre, la base, elle n'est pas tant intégrée que ça, parce que l'Union populaire a très peu de mairies, très peu de régions, très peu de positions syndicales, et concentre pas mal de militants associatifs ou syndicaux de base. Et donc, il y a une contradiction entre une direction bourgeoise et une base sociale plus prolétaire. Et finalement, au milieu Macron, voilà, pour la polarisation et au milieu Macron, qui a essayé de reproduire ce qu'il a fait à 5 ans, donc ce qu'on appelle une position bonapartiste. Alors le bonapartisme, c'est toujours c'est intéressant. Pareil, je ne développe pas, mais Bonaparte, c'est s'élever au-dessus des classes sociales, faire croire qu'on va résoudre les problèmes de conflit de classe en faisant systématiquement la politique pour la classe dominante. Et ça, il y a une forme de bonapartisme chez Macron, mais certains camarades ou intellectuels de nos courants disent un bonapartisme nain, parce que, bon, il y a quand même des problèmes. Pour même Macron, c'est pas tout à fait de Gaulle, et il a du mal quand même à concilier l'ensemble des conflits de classe. On l'a vu sur les 5 dernières années, mais il représente quand même à la fois les élites dirigeantes, mais aussi toute une couche qu'on pourrait appeler pour nous parasitaire, quoi. les RH, les directeurs de services à n'en plus finir dans les hôpitaux, l'encadrement des grandes entreprises. Tous ces gens-là ont tout à fait intérêt à ce que Macron dirige le pays. Mais bon, sa base sociale est quand même réduite, et ça pose quand même toute une série de problèmes pour la bourgeoisie, et une forte instabilité qui à la fois est lourde de danger, parce qu'on sait bien que quand la bourgeoisie panique, l'extrême droite devient un recours crédible, et c'est des processus qu'on voit apparaître quand même dans pas mal de pays dans le monde, hein, alors avec les mille et une nuances d'extrême droite, hein, Bolsonaro, Trump, Orban, et on pourrait faire le tour de la planète comme ça, il y a quand même pas mal de pays où c'est l'extrême droite qui vient en support de la domination du capital. Danger, mais aussi possibilité. C'est la situation instable et là, de recomposition. Donc moi, je crois que c'est la première leçon, c'est que la crise économique, sociale, qu'on décrit depuis des années, est en train de se propager au champ politique. Il y a une crise très forte de la représentation politique de la bourgeoisie. En France, elle se traduit par la fin du bipartisme, qui était l'alternance droite-gauche, très stable, dans le cadre des institutions de la Ve République, et la tripartisation du champ politique et pas une bonne nouvelle pour la bourgeoisie, parce que c'est pas tout ça est rempli d'incertitudes. Et puis, elle percute complètement le mouvement ouvrier. C'est-à-dire qu'on avait un mouvement ouvrier quand même très intégré à l'appareil d'État. L'EPS, depuis 1981, quand même, ayant beaucoup traîné dans les ministères et bien, bien intégré l'ensemble des directions syndicales, et ainsi de suite. Bon, tout ça est en train de bouger, forcément, puisque il n'y a plus à manger régulièrement pour cette couche sociale-là. Donc, potentiellement, on va vers des recompositions. Alors, bon, je vais essayer de ne pas être trop long, et puis parce qu'il y a plein d'éléments qui relèvent du débat entre nous et que je vais essayer de ne pas introduire des éléments polémiques. Mais la recomposition a commencé. Alors, on le voit à gauche, avec le fait que le PS soit complètement déchiré entre ceux qui ont rejoint le macronisme et ceux qui ont rejoint l'Union populaire depuis 12 ans, hein, depuis le départ de Mélenchon. Je crois qu'aujourd'hui, autour de la NUPES, est en train de se nouer ou se dénouer une série d'évolutions politiques qui font que la social-démocratie, les réformistes, se sont rachetés une virginité, pas très cher, mais rachetés une virginité quand même. Et donc, on ne peut plus faire comme avant, dire de toute façon c'est le PS, ils ont trahi. Et donc on le sait, hein. Il y a eu Mitterrand, il y a eu Jospin, il y a eu Hollande. Et donc nous, il y a une délimitation stricte par rapport aux réformistes. Mais là aujourd'hui, c'est compliqué de dire que l'Union populaire, il y a une délimitation stricte parce qu'ils ont trahi, parce qu'ils n'ont pas encore trahi. Et on peut penser et faire le pronostic que moi je formule, après chacun jugera. Que s'ils accédaient au pouvoir, ils mèneraient une politique assez proche de ce qu'a pu faire Mitterrand ou Jospin. Mais tant que ce n'est pas arrivé, je pense que ça ne sert à rien de le dire. Parce qu'en réalité, ça sert juste à t'isoler, parce que personne n'y croit. Enfin, on voit bien, on l'a tous testé autour de nous. Tout le monde pense qu'il y a un élément de subversion du système si la NUPES arrive au pouvoir, et qu'on est obligé de composer avec ça. Et ça, je crois que ça change un peu les choses, même si le pari que nous on fait, c'est que parce qu'on a un schéma, une hypothèse stratégique totalement différente du réformisme, que ça ne va pas fonctionner. Mais bon, ils vont pas. A priori, moi, l'autre pronostic que je fais, c'est qu'ils vont pas gagner la majorité à l'Assemblée ce soir. Et donc, ils vont avoir un groupe important de députés. Ils vont passer de 17 à plus de 100 ou 150 députés. Et que ça risque de renforcer toutes les tendances à l'œuvre dans la période précédente. C'est-à-dire que dans le champ institutionnel, dans les élections, dans la polarisation de la partie la plus constante de classe, l'Union populaire va rester le référent, au moins électoral, de notre classe sociale. Et que ça nous implique de discuter tactique, et donc de discuter de comment on intervient en direction de ce qu'est la conscience des masses aujourd'hui. Et ça, on ne le choisit pas. Alors, pour moi, il y a quelques éléments importants qu'on doit avoir en tête. Quelques éléments qu'on doit avoir en tête par rapport à ces éléments-là. Voilà. De mesurer où en est la conscience de notre classe et donc comment y intervenir. Bon, la première chose, je l'ai dit, la situation est lourde de danger. De façon plus fondamentale, on pense qu'on ne changera pas le monde sans conquérir une majorité sociale, politique. On n'est pas blanquiste. Hein, on pense que pour arracher le pouvoir à la bourgeoisie, il faudra que notre camp social il prenne conscience de lui-même, hein, le parti de Marx, tout ça. Et donc il faudra que jamais tout de la classe sociale, mais en tout cas, il faudra que sacré bout de la classe sociale soit suffisamment homogène pour s'affronter à l'État bourgeois. Et donc pour ça, c'est pour ça qu'un des éléments fondamentaux, c'est comment on unifie notre camp social. Alors à la fois de façon défensive par rapport à l'extrême droite, mais aussi de façon offensive pour poser la question du pouvoir des travailleurs. Et que ça, je développe pas là-dessus, mais dans notre courant, on parle beaucoup de front unique ouvrier. Alors après, ça demandera un topo à part entière que je ne vais pas faire aujourd'hui. Mais le fait de dire que travailler à l'unité des organisations de notre camp social pour construire des leviers pour les mobilisations, pour l'affrontement, pour l'autodéfense, c'est une question qui est fondamentale. Et je crois que de ce point de vue-là, notre courant est assez exemplaire sur sa capacité à s'adresser et travailler avec tout le monde. L'autre élément en discussion, qui là est un élément plus d'ordre stratégique, c'est la question du rapport à l'État. Et je crois que si on veut intervenir, que ce soit un pied dedans ou deux pieds dehors de la NUPES, si on veut intervenir en direction de ces courants-là, qui sont là aujourd'hui, qu'on retrouve au travail, qu'on retrouve dans le syndicat, ainsi de suite, il faut qu'on arrive à se renforcer, à se mobiliser sur le fond, parce que plus tu fais de tactique, plus il faut que tu sois solide sur ce côté et sur la théorie. Je crois qu'un des éléments de discussion, c'est le rapport à l'État, et sur deux aspects au moins. Le problème, et ça je l'ai déjà dit, mais l'État, il a cette capacité à intégrer les courants du mouvement ouvrier n'ont pas cette délimitation-là. Les parlementaires, quand tu commences à avoir un groupe parlementaire important, quand tu commences à avoir des municipalités, des régions, une couche d'élus, des gens qui vivent de l'activité de ton organisation, parti, mouvement, ainsi de suite, il y a des phénomènes qui se produisent, qu'on appelle la bureaucratie. Je crois que c'est quelque chose qui est très important, y compris dans la construction historique de notre courant, mais ça découle de la compréhension qu'on a à la fois de cette capacité qu'a l'État à intégrer le mouvement ouvrier, et puis aussi et des choses qu'on peut parfois retrouver, y compris jusque dans les rangs des révolutionnaires, mais qu'à un moment donné, quand on est détaché de la production comme permanent, quand on commence à, sans forcément s'enrichir, avoir d'énormes avantages matériels, mais quand on commence à devenir un professionnel de la politique. Et on a tendance à considérer que sa position de permanent est un acquis du mouvement ouvrier, une position conquise. Et donc on va inféoder toute notre politique à la sauvegarde de l'acquis. Voilà. Et ça, c'est une mentalité qu'on retrouve systématiquement dans les organisations de masse bureaucratisées, où on a des couches de dirigeants vont parfois mener des politiques contradictoires à la classe qu'ils représentent, en pensant que la défense de leur position est fondamentale, puisque c'est un acquis du mouvement ouvrier. Et donc on a des mécanismes comme ça, qui se reproduisent à peu près systématiquement, et il y a fort à parier qu'avec un groupe de députés élargis et une intégration dans l'appareil d'État plus importante, ce type de phénomène pèse sur la direction élargie de l'Union populaire. Alors nous, là-dessus, on a des solutions. Alors, c'est pas nous qui les avons inventées, mais le contrôle des élus, si possible, par y compris un parti démocratique. C'est-à-dire que les élus devraient être systématiquement soumis à la démocratie du parti. On voit bien que la France insoumise, c'est l'exact opposé. La direction de la France insoumise, c'est le groupe de parlementaires. Ça, c'est un problème fondamental, quand même. C'est que nous, on est pour inféoder l'activité parlementaire à l'activité extra-parlementaire. Et eux, ils disent la direction, c'est les parlementaires. Donc déjà, on a un problème quand même très important de ce point de vue-là. c'est le salaire des élus. Les élus à la France Insoumise, à l'Assemblée, ils partent tous les mois avec leurs 7000 euros en poche. Voilà. Bon, nous, si on avait des élus, on appliquerait l'impôt révolutionnaire. On laisserait le salaire moyen à l'élu et on prendrait le reste pour l'activité de l'organisation. La rotation des mandats, bon, et aussi le lien avec le travail. Bon, ça, et ça, c'est un problème aussi. Quand on discute avec d'anciens camarades à nous qui sont députés, comme Daniel Obourneau par exemple, ce qu'elle explique, c'est que t'es tellement pris dans la machine du Parlement, les commissions, les machins, les textes à lire, ceci, cela, que tu n'as plus aucun temps pour le lien avec la vraie vie. Bon. Et je pense que ça, c'est vrai, par exemple, dans le syndicalisme, hein, mais des fois, tu es tellement pris par ton activité dans le CHSCT, le CSE, le machin, et tout, tatatitata, qu'au bout d'un moment, tu es complètement découpé de tes collègues. Et donc, c'est important d'essayer, alors soit, quand c'est possible, d'organiser la semaine pour que tu aies un temps au travail et un temps dans ton activité de militant professionnel, soit d'organiser ta vie pour passer quelques années permanents et puis après retourner au travail parce que ça fait du bien. Donc on est pour déprofessionnaliser la politique. Hein. Ça c'est un point de discussion majeur avec, avec l'Union Populaire. Bon, si on parle de l'État, on peut aller un peu plus loin. Yves Lefebvre, secrétaire général de FO Police, a déclaré il y a 3 jours... Je n'obéirai jamais à Jean-Luc Mélenchon, la France serait en feu, mais cette fois, cela opposerait la police nationale au pouvoir politique. Hein, Force ouvrière. Qui est le syndicat, si ce n'est majoritaire en tous les cas. Voilà, important. Hein. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, la bourgeoisie est un peu stressée. Et même l'accès des réformistes que nous, on pense qu'ils ne vont pas arriver à subvertir le système, l'étend un peu. Quoi. Et tant. L'état profond quelque part. Voilà. Je conclurai quasiment là-dessus, quoi. Mais non, j'ai une autre conclusion après. Mais je conclurai quasiment là-dessus. L'état en dernière instance. Alors, l'état, c'est très complexe. Il y a des débats très intéressants sur l'état. Bourdieu a apporté des choses. Il y a plein. Donc là, c'est très caricatural. Mais quand on dit l'état en dernière analyse, c'est une bande d'hommes armés. Bon. Voilà, FO Police nous prouve que c'est encore un peu vrai, quoi. Voilà, et donc, je ne développe pas parce que ça fait référence à des choses que je dis au début. Voilà, bon. Et la dernière question, quand même, quand on discute par rapport à l'Union Populaire, c'est la question du parti. Voilà. Et je crois que quand on a dit tout ce qu'on a dit depuis le début, enfin tout ce que j'ai dit depuis le début, on voit bien que la question du parti, elle est fondamentale. À la fois pour structurer la conscience, donc pour être. Il n'y a pas d'intérêt distinct du parti communiste historique des masses, et aussi un pas en dehors, donc intérieur-extérieur, pour se préparer à l'affrontement et à prendre des initiatives. Et le parti, on est loin de l'avoir construit. Il y a des partis aujourd'hui, des petits partis. On l'a vu, hein, même le noyau militant de l'Union Populaire, on l'a vu au régional. Ils sont un peu plus nombreux que nous, hein, en dehors des périodes un peu plus nombreux, hein, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas non plus le rapport qu'il y avait entre la LCR et le PCF dans les années 70. Hein. Ils sont pas beaucoup plus nombreux que nous. Donc on voit bien que c'est des petits partis aujourd'hui. Mais la question de la construction du parti, elle est fondamentale pour renverser le capitalisme de notre point de vue. Et pour ça, et je ne développerai pas, mais un peu comme introduction à la réflexion entre nous et pour les jeunes camarades, mais le chemin pour construire le parti dont on a besoin à l'échelle de l'histoire, il peut prendre plusieurs chemins. Longtemps, notre courant a construit un parti qui s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire. On a tenté avec le NPA de franchir un saut. Et je crois que 12 ans après, le NPA, à son utilité, doit absolument être maintenu, mais doit comprendre que l'ensemble du champ politique ne va pas se recomposer autour de lui. Quand on a créé le NPA, il y avait le PS, qui était un parti de gouvernement, et pas grand-chose à la gauche du PS. Donc la montée de la France insoumise est venue nous concurrencer, et aujourd'hui, a gagné l'hégémonie sur ce champ politique-là. Donc après, je ne donnerai pas mon avis, mais voilà, comprendre qu'il y a plusieurs chemins pour construire le parti. Qu'aujourd'hui, un des grands acquis du NPA, c'est justement d'être un parti démocratique qui à la fois comprend la nécessité d'unifier notre camp social mais à la fois est suffisamment costaud et devrait se renforcer encore dans ce sens pour avoir ces éléments de compréhension stratégique-là qui, à mon avis, sont vitaux et essentiels pour faire la révolution.